marche du monde. Valérie Nivelon.
La Marche du Monde vous présente Nos années Goulag, une série documentaire inédite coproduite par RFI et France Culture.
Było, mogło być gorąco do 60-50 stopni, ale w zimie było tyle samo zimna.
Je peux vous dire qu'en été, on arrivait à 50 degrés de chaleur et en hiver à moins 50 de froid.
Gdyby nie te straszne huragany, nienawidzę wiatrów do dzisiaj, bo te huragany zasypywały nas zupełnie, całą chałupę.
Et encore, je peux vous dire que j'ai horreur du vent, parce que quand il y avait des ouragans, on était rempli de la neige.
Bo wtedy była jedna wielka płaszczyzna śniegu, jak się wychodziło.
Il y avait vraiment de la neige de partout.
Troisième épisode. Irina et Stella au pays des ours blancs.
Płaszczyzna śniegu, jak się wychodziło, to było coś cudnego, gdyby człowiek miał
Si on pouvait avoir enregistré ou filmé ces images, c'était des images uniques.
Stella Kovacs est une jeune fille de la bonne bourgeoisie polonaise. Elle a 11 ans.
O 5 rano,
à 5 heures du matin,
zawalili do tych drzwi.
Ils ont frappé à la porte très très fort.
I weszło kilka osób. Z bagnetami tak nastawionymi na wprost.
Quelques personnes sont rentrées.
I kazali się
avec des fusils
brać, wychodzić.
En face de nos visages. Et bien sûr, ils nous ont dit: brać, sortez, wychodzić.
Irina Tarnawska est une petite paysanne ukrainienne, âgée de 8 ans.
Tak, ja rodziłaś w 1940.
Je suis née en 1940. Dans le village Skalava de la province Zalatinska de la région de Lvov. Nous avons vécu, comment dirais-je, j'ai du mal à parler russe. On habitait dans un village. J'étais enfant et je m'occupais à garder d'abord des oies, puis des vaches. En 1948, le 31 décembre, il y a eu des gens qui sont venus à frapper à notre fenêtre. Ma mère a demandé qui c'était et ils ont dit « Ouvre, on est des vôtres ». Ma mère a ouvert la porte. Ils étaient plusieurs, ils étaient armés, des militaires. Ils sont entrés et ils ont dit à ma mère: « Prépare tes affaires, on va t'amener chez les ours blancs. »
Ponieważ mama myślała, że my idziemy do więzienia z racji tej...
Ma maman, elle pensait qu'on allait en prison.
Oficerstwa naszego ojca nawet nie braliśmy niczego innego pod uwagę.
Mon père est officier.
Więc ubrała siebie, mnie, w to, co nosiłyśmy poprzedniego dnia.
Donc elle se dit, je ne prends rien avec moi, je ne prends pas d'habits.
Dziewczyna... Taka
elle nous a habillés avec des habits de la veille. Notre aide, femme de ménage, elle commençait à chercher des habits, mais bien sûr, elle n'a pas fait de bagages. Ma mère, elle avait des chaussures à talons, parce qu'à cette époque, elle avait déjà les chaussures à talons. Donc nous sommes sortis, nous avons vu des camions, les gens avec tous leurs bagages. Il y avait des gens qui savaient qu'il y avait une déportation. Il y avait des fuites, mais chez nous, il n'y avait rien qui est arrivé. Nous, on pensait, nous n'avons rien pris de la maison, aucun bagage. Et on a demandé, non, ils nous ont interdit de retourner dans notre maison.
Ma mère a commencé à pleurer très fort.
Et ils ne se sont pas
Elle ne préparait pas nos affaires. Ma mère avait des nattes très très longues qui descendaient jusqu'aux genoux. Il a pris les nattes de ma mère, il les a bien pris dans son poing et il a commencé à traîner ma mère. Ma mère est tombée et donc il l'a traînée comme ça vers le traîneau. Il y avait beaucoup de neige à ce moment-là. Il a jeté ma mère sur le traîneau et nous, on était trois enfants. J'avais une sœur aînée et puis une petite qui avait 5 ans. Et donc, nous avons dû préparer nos affaires seules. Nous avons préparé ce qu'on pouvait. Et alors, ils nous ont chassés de notre maison, ils nous ont mis sur le traîneau. Et ils nous ont amenés à Lvov, en prison.
Irina et Stella revivent leur arrestation par les soviétiques. Elles retrouvent la violence de la scène. Exactement. C'est très impressionnant, comme une compression du temps. Leurs familles font partie des catégories ciblées par la répression stalinienne, dont la stratégie est de nettoyer les territoires conquis des éléments considérés indésirables. Déportation massive des classes possédantes polonaises, comme le père pharmacien de Stella en avril 40. Déportation de milliers de familles paysannes ukrainiennes, comme celle de Irina en décembre 1948, afin de priver la résistance armée de soutien. Stella est déportée et exilée dans un village du Kazakhstan pour toute la durée de la guerre, tandis que Irina est déplacée de force dans un hameau de Tomsk, en Sibérie, de 1948 à 1958.
En prison, qu'est-ce qu'ils nous ont traités mal, même nous, les enfants. Ils ne nous laissaient pas sortir, même pas aller aux toilettes. On ne pouvait aller aux toilettes que le matin et le soir. La promenade, on ne pouvait se promener que le matin et le soir. C'était affreux, c'était terrible en prison. Ils nous ont traités vraiment très mal. Il y avait des chalets à 3 niveaux. Il y avait tellement de monde qu'on était obligé de se coucher sur le côté. Et alors, si quelqu'un voulait changer de côté et de se retourner sur les chalets, tout le monde était obligé de le faire en même temps. Parce que sinon, il n'y avait pas de place. Et alors, on a été envoyé en Sibérie, dans un deuxième temps, dans la région de Tomsk.
Mais nous, pendant ce temps-là, on est parti à la station de chemin de fer et nous avons vu les wagons pour la bétail. Ils ont commencé à nous mettre dans ces wagons. Il y avait déjà des personnes à l'intérieur. Il y avait 2 bancs d'un côté, de l'autre côté. Et bien sûr, très très serré, les personnes arrivaient, parfois ils avaient des bagages, d'autres rien du tout. Et à l'intérieur de ce wagon, il y avait un trou. On appelait ça closet, c'était le WC.
Au Pouty, au нашем wagon, умер ребенок.
Pendant le voyage, il y a un enfant dans notre wagon qui est mort. Alors on a frappé Et on a dit qu'un enfant était mort et un homme d'escorte est venu. Il a pris l'enfant par les pieds et l'a jeté par la fenêtre. C'était l'horreur non pas seulement pour les parents de cet enfant, mais pour nous, pour les enfants aussi. Ils nous ont amenés à Assino. Le fleuve Vob était encore couvert de glace. Ils devaient nous amener sur une péniche, mais comme c'était couvert de glace, ils nous ont fait descendre à Assino. On était quatre avec ma mère. On a eu juste un petit bout de sol pour dormir. C'était tellement petit que ma mère a passé toute la nuit à enlever les pieds des autres parce que sinon les gens nous auraient écrasés. Et puis quand la glace a fondu, alors là, il y avait des gens qui voulaient s'enfuir. Quand quelqu'un s'enfuyait, on l'attrapait. Et s'il ne pouvait pas l'attraper, il tirait et il tuait les gens et des enfants aussi, pas que des adultes. Après, ils nous ont fait monter sur une péniche. On a passé deux semaines sur la péniche en voyageant sur Ob. Ob est tellement large qu'on ne voit pas l'autre berge.
А с другой стороны не такой высокий лес.
On a vu une énorme forêt.
И медведи ревут.
On entendait des ours hurler, des loups.
И лисицы бегают возле нас.
Et puis on a vu aussi des renards autour de nous.
Всех выгрузили и мы стали плакать, что мы у нас.
On a fait descendre tout le monde et nous on a commencé à pleurer parce qu'on avait peur d'être mangé par des ours et des loups.
Приехал трактор с такими деревянными санями.
Un tracteur est venu. Un tracteur qui traînait un traîneau en bois. Parce que là-bas, c'était des marécages. Ils nous ont fait monter sur ce tracteur à
chenilles.
Et ils nous ont amenés dans un village qui s'appelait village du 25e kilomètre. Parce qu'il se trouvait à 25 kilomètres de Krasnyï Yar.
Et
il y avait déjà une baraque construite, mais dans cette baraque, il n'y avait ni de fenêtres, ni de portes.
По дорозі якісь такі самі вші, та не знайдіть навіть наше. І в той спосіб пужні гавішим шосте степи.
Il y avait des villages, on traversait des villages. Et on passait des steppes.
І так нас шосте вші до наші дні довіжили.
17 jours, cela a duré.
Казахстану.
Et nous sommes arrivés à Казахстан.
Глибоко в Росії.
bien profond de la Russie.
І там нас вижучили в так до такі дуже шопи.
Là, ils nous ont jetés dans un hangar. C'était avril. Il faisait très très froid. Je peux vous dire que nous étions très très mal habillés. Nous avons eu très très faim. Mais bien sûr, les chaussures, imaginez-vous. Et il y avait des rats, plein de rats qui couraient sur le plancher. Et nous avons passé la nuit par terre.
Et
le lendemain, ils nous ont dit que c'était Svinohofsovkhoz. Ça veut dire que c'était kolkhoz de porc. Tout le monde était très joyeux. Ils disaient, ben, au moins, on aura de la viande à manger. Bien sûr, il y avait de la viande, mais c'était de la viande pourrie.
Ils
nous ont dit aussi que chacun peut chercher kvatira, c'est-à-dire une maison. Donc nous nous sommes dispersés dans les villages, il y avait une petite rivière qui passait. Et ma maman imaginait là avec ses talons, oui, ses chaussures à talons. Et bien sûr, à cette époque, à ce moment-là, je suis devenue adulte.
La déportation semble synonyme de la fin de l'innocence pour Stella. Fille unique, elle vit une relation fusionnelle avec sa mère, d'autant qu'elle est séparée de son père, parti à la guerre. Il est en réalité prisonnier de l'armée rouge, mais Stella ne l'apprendra que beaucoup plus tard. Cette séparation d'avec le père, c'est l'autre traumatisme subi par la plupart des familles au moment de l'arrestation. Sous les yeux des enfants, les pères sont mis à l'écart pour être directement envoyés en camp de travail où ils sont utilisés comme une main-d'œuvre servile.
Parfois, on restait 3-4 jours sans lumière, sans eau et on léchait même presque la neige sur le mur. C'était vraiment affreux. Et tout était humide avec la neige. Et moi, j'avais ma place sur le toit.
Wilki w zimie zaglądały do okien.
Il y avait même des loups. Des loups venaient à nos fenêtres.
A biało było naokoło.
Imaginez-vous, dans les steppes, c'était tout blanc. Imaginez-vous, madame, s'il y avait des caméras à cette époque, c'était vraiment des paysages uniques. C'était magnifique. Après ces ouragans, c'était propre, c'était blanc. On ne trouvait même pas la maison. Il y avait quelque part de la cheminée, une petite fumée, et nous restions tranquilles dans nos pièces. Comment on a pu vivre dans cette maison? Bien sûr, nous n'étions pas du tout préparés. Comment on a survécu? Mais le gouvernement s'est aperçu qu'ils ont vraiment envoyé que les enfants et les mères. J'étais trop petite, moi, pour aller au travail. Quand je voyais ma mère partir, je peux vous dire que je hurlais, je pleurais, je courais derrière. Et au début, ils voulaient même m'envoyer dans un orphelinat. Mais ma mère leur avait expliqué que j'étais tellement proche d'être toujours avec ma maman que je devais rester avec elle et qu'il fallait me laisser tranquille, que c'est normal que je pleure quand maman elle s'en va.
Retrouvez les voix de Stella et Irina. Elles nous racontent leur enfance au goulag, juste après les infos sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Suite du troisième épisode de notre série documentaire « Nos années Goulag », coproduite par RFI et France Culture.
Родители, конечно, не могли ходить, потому что они были на каторге.
Les parents n'avaient pas le temps et parce qu'ils travaillaient. Mais nous, les enfants, on allait dans la forêt pour chercher des baies, des champignons.
Черника сладкая ягода.
C'est ainsi qu'on nous avons survécu. On cherchait par exemple des myrtilles. Les myrtilles sont très sucrées, n'est-ce pas? On avait envie de quelque chose. Et on les a fait cuire, mais sans sucre. Et alors, qu'est-ce que c'était mauvais? C'était comme du vinaigre. Alors après, on les mangeait crus. Mais il y avait tout. Il y avait des framboises, il y avait des érelles, des myrtilles. Et puis, juste avant l'hiver, le début de l'hiver, du froid, on allait chercher des canneberges dans les marécages. Et alors, quand le froid vient, la canneberge devient rouge. Et quand vous regardez la mousse, on a l'impression qu'il y a des perles rouges disséminées sur la mousse. C'est très très beau.
Irina et Stella au pays des ours blancs.
Un jour, on est allé chercher des champignons.
Нашли такой гриб.
Dans la forêt.
Конечно, мы были все худенькие.
Et nous avons trouvé un champignon.
Но мы нашли такой гриб.
Évidemment, on était très maigres, très légères tous. Et on a pu s'asseoir toutes les trois avec mes sœurs sur ce champignon. Et le champignon ne s'est pas cassé.
Мы очень голодали. Очень.
Qu'est-ce qu'on avait faim?
Я была такая худая. И не только я, мы все.
Je n'avais que des os et de la peau, et c'est tout. On était tous pareils.
Мы писали папе письма, потому что папу с нами не забрали.
Nous avons écrit des lettres à papa parce que notre père, lui, travaillait à Lvov dans les chemins de fer. Alors on l'a pas amené avec nous. Et donc, nous avons envoyé des lettres au papa et en lui racontant ce qu'on souffrait. Il nous envoyait ce qu'il pouvait, un peu de farine, un peu de céréales. Alors, au printemps, nous avons planté sur un terrain où il n'y avait plus de taïga, il n'y avait plus d'arbres. Alors là, entre les souches, nous avons planté un peu de pommes de terre. Et après, quand il y a eu des nouvelles pommes de terre, ma sœur aînée allait chercher tous les jours quelques pommes de terre. Elle les faisait cuire.
Когда мама придут с работы,
quand maman rentrait du travail, on mangeait ensemble.
Есть очень хотелось.
Qu'est-ce qu'on avait faim?
Я садилась над кастрюлькой и.
Moi, je m'asseyais devant la casserole avec les pommes de terre.
Воздухом картошки.
Je respirais la vapeur qui montait de la pomme de terre. Je m'asseyais au-dessus de la casserole et je faisais comme ça. C'est comme ça que je mangeais les pommes de terre. Et puis maman arrivait, elle rentrait du travail et on avait chacune une pomme de terre et c'était tout.
Dans son village du 25e kilomètre en Sibérie, Irina est prisonnière de ses manques et de ses souffrances. Seule la beauté de la taïga lui permet l'émerveillement, par moments. Quant à Stella, dans son village du Kazakhstan, Elle est d'abord terrifiée par tout ce qui l'entoure, mais grâce au colis envoyé par sa grand-mère, elle se crée un univers fantasque où elle prend de l'assurance en devenant la reine du troc.
Et pendant ce temps-là, nous recevons des paquets. Et je peux vous dire qu'on était bien habillés à cette époque. Un petit manteau, un petit pull. Et je peux vous dire que je me sentais très, très élégante. Je me croyais très élégante. Moi, je pensais qu'on allait revenir à la maison et on pensait qu'on allait revenir assez rapidement. C'était un passage. Et ma grand-mère qui écrivait à ma mère. Rappelle-toi qu'il faut lui mettre une bonne écharpe. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'elle écrivait. Notre grand-mère, en pleine santé, mon père était prisonnier en Hongrie. Nous avons survécu parce qu'on nous a toujours envoyé des paquets. Même on avait reçu un jour un gros coffre immense. Il n'arrivait même pas à passer la porte. Il était obligé, notre propriétaire, d'enlever la porte de notre maison pour rentrer ce coffre de notre maison. Le voyage a duré 6 mois pour arriver à notre maison. Le voyage de ce coffre. Ma mère, elle n'avait plus de chaussures et on pouvait aussi échanger dans ces kolkhozes nos habits contre la farine, les pommes de terre. C'était du luxe. Tchaïkovski, une fois, il avait volé une pomme de terre. Les pommes de terre ont été magnifiques. Il l'a mis ici, dessous la chemise. Il a enveloppé par l'écharpe et il l'a envoyé en prison. Donc il est mort parce qu'il a pris quelques patates. Et sa fille demandait de le sortir. Elle avait la tuberculose. Parfois, elle mettait du charbon dessous les yeux pour faire voir comment elle était pauvre, mais pour eux, ce n'était pas important. Donc, je peux vous dire qu'il y avait un commerce. Les tableaux, les tapis. Je peux vous dire que c'était vraiment atroce dans ce village. Mais on arrivait quand même à manger. On pouvait avoir de la farine, on pouvait avoir des pommes de terre. C'était plus simple que dans les villes.
En 1941, une amnistie est proclamée à l'égard des Polonais déportés. Stella et sa mère quittent leur village du Kazakhstan et se réfugient en ville, où Stella se lance dans le trafic de vêtements. Pour Irina, les conditions de la déportation sont vécues avec d'immenses difficultés, sans aucun lien avec son Ukraine natale. Soumise au travail forcé dans le village du 25e kilomètre en Sibérie, Irina est obsédée par le manque de nourriture. Torturée par la faim, elle dévore les lettres envoyées par son père.
Et
après, papa nous a écrit qu'il voulait venir nous rejoindre, mais qu'on ne le laissait pas partir de son travail. Alors papa, il a demandé 5 fois, et il disait qu'il avait des enfants en Sibérie. Alors le chef lui disait, mais à quoi ça te sert, ces enfants? On va te marier ici, et t'en auras d'autres. Alors mon père a dit, je vous demande la dernière fois de me laisser partir, et si vous ne me licenciez pas, je partirai sans papier, tant pis. Et c'est là que le chef l'a licencié, et comme ça, papa a pu venir nous rejoindre. Alors, quand il est arrivé, la vie est devenue plus facile pour nous, grâce à lui. Parce que mon père était très intelligent. Il savait faire beaucoup de choses. Il savait réparer les montres. Il savait tout faire.
Il n'a fait que 4 ans de l'école. Mais il savait tout faire, même coudre, tricoter, tout, broder. Mon papa avait des pieds très grands, alors il ne pouvait pas acheter ses chaussures. Et alors il savait faire ses chaussures lui-même. Et quand il est arrivé, le commandant, parce qu'on était surveillé par un commandant, même les enfants, tout le temps, on devait se faire pointer toutes les semaines. On devait aller signer. Alors quand le commandant a su que papa savait tout faire, la vie est devenue un peu plus facile pour nous. On construit de nouvelles baraques. Comme ça, on a pu déménager et avoir d'abord une pièce pour deux familles. Et plus tard, ils ont commencé à rémunérer le travail.
Первую зарплату, когда получили.
Quand mes parents ont eu leur premier salaire,
maman
est allée au marché
хлеба,
acheter du pain. Qu'est-ce qu'on était contents. C'était la première fois qu'on mangeait comme des hommes.
Sama, chodziłam do tej polskiej szkoły, do tej trzeciej klasy, żeśmy chodziły w nieskończoność.
Moi, je suis allée à l'école, toujours dans la même classe. On appelait la classe troisième.
Różnymi zajmując się zawodami.
Mais on s'occupait de tous les métiers.
Ale w międzyczasie ja
moi,
handlowałam.
Je faisais le commerce.
Robiłyśmy swetry. I swetry jest taki, włóczka tam taka była, prawie
wata. On tricotait des pulls.
Ale robiłyśmy dwa swetry duże i jeden mały. Ja robiłam te
et
dwa
ensuite,
duże i jeden mały.
Maman, avec des fils en couleur, avec de l'encre, on arrivait à faire des jolis pulls. Et ensuite, sur le marché, on arrivait à les vendre.
Donc,
chez moi, je les fais deux grands pulls, un petit pull, où on avait aussi une bourse dans cette école. Mais on n'arrivait pas à vivre. Et avec cet argent, on arrivait à vivre en vendant la marchandise sur le marché libre.
Il
faut dire qu'on avait tous des grosses nattes.
У нас когда-то на Украине.
Parce qu'en Ukraine, on considérait que c'était honteux.
Когда у девушки не было косы, это был позор.
Pour une fille de ne pas avoir de nattes.
Когда
Alors la maîtresse est arrivée.
Пришла учитель,
elle нous a dit demain que toutes les filles viennent sans nattes.
У одной девочки были косы такие вот чуть не до пят. Кто же отрежет такую косу?
Il y avait une fille qui avait une natte qui lui descendait presque jusqu'au pied. Qui osera couper une natte comme celle-ci? Évidemment, personne n'a coupé ces nattes. On est venues toutes avec nos nattes. Et alors la maîtresse s'est approchée de ma sœur et lui a coupé des nattes. Très court, tout près de la peau. Et cette fille qui avait une natte très très longue, on s'est enfui avec cette fille. On est sorti par la fenêtre et pendant deux semaines, on n'est pas allé à l'école pour qu'on ne nous coupe pas des nattes. Je me souviens d'une maîtresse,
Julia Ivanovna,
une qui s'appelait Yulia Ivanovna. Elle était très bonne. Elle était russe, mais elle était très gentille.
Потому что я когда приходила из школы,
quand je rentrais de l'école, et en hiver, et il fait très très froid. Moi, je rentrais de l'école au ski. Et je passais entre les arbres, sur des collines, je descendais en ski. Je faisais du ski, je ne faisais pas de devoirs. Mes devoirs, je les faisais encore à l'école, pendant les leçons. J'écoutais un peu ce que disait la maîtresse, et puis d'autre part, je faisais mes devoirs. J'ai fait 4 années d'école et quand j'ai fini la 4e année, je suis allée travailler pour l'État sur un chantier du chemin de fer. Et donc je portais des rails comme les adultes, je travaillais comme les autres. Et les adultes ne pouvaient pas nous aider ou nous plaindre parce qu'ils étaient surveillés et le surveillant, il aurait puni celui qui aurait osé nous aider ou nous plaindre. Parce que c'est dur c'est très dur de me souvenir de ça, c'est très dur.
Bo już od czasu wojny paczki przestały przychodzić, listy przestały przychodzić i w ogóle straciliśmy kontakt z domem zupełnie.
Depuis la guerre, on recevait plus nos jolis paquets.
Koleżanka.
Nous avons perdu tout le contact avec notre maison, avec notre famille.
Więc
ma maman aussi, elle travaillait. Elle travaillait dans une usine de chaussures. Elle avait ce bonheur et malheur qu'elle travaillait en 3-8. C'était vraiment un travail très, très difficile. On cousait des éléments pour les chaussures. Elle est tombée malade. Elle avait une maladie typhoïde.
Tam trzeba było.
L'hôpital se trouvait très loin, 7 km pour aller.
Więc nie miałam tego jedzenia.
Fallait lui amener à manger.
Wszystko to, co zostało już. Te koszule, Maria,
donc, à l'alimentation, je commençais à vendre mes chemises pour le marché libre. Vous savez, avec le marché libre, on arrivait à tout avoir. Je ne savais pas très bien cuisiner, mais j'arrivais à vendre mes chemises. Je disais que c'était des robes et ça partait très bien. Donc, 5 km à pied pour aller voir ma mère, je revenais à la maison, ensuite encore 7 km, et dans mon coffre célèbre, je trouvais toujours des trésors pour les vendre. Je devenais vraiment très très célèbre, parce que j'arrivais quand même à leur parler, et ils m'appelaient une fille au ruban, parce que je me mettais toujours des rubans dans les cheveux. Mais malheureusement, j'avais toujours des habits soit trop grands, soit trop petits. Mais j'avais trouvé un manteau qui était très élégant. Je me croyais très, très élégante à cette époque, vous savez. Il était magnifique. Ma mère, elle avait maigri, elle pesait, je crois, 40
kilos.
Notre ville où nous habitons, c'était une ville assez grande, même plus grande. Plus grande que Lwów, mais il n'y avait pas beaucoup de magasins. Et nous avons reçu des rations d'alimentation. Et le pain, dans très très peu de pain. J'adore le pain. Le pain pour moi, c'est quelque chose de très très important.
Non, et ce qu'on l'a,
quand il n'y avait plus rien à vendre, nous avons commencé à vendre toutes nos affaires, nous avons eu des soucis pour survivre. Il ne nous restait que de l'or. On pouvait encore acheter des médicaments contre de l'or. Et ce médecin, il était très gentil. Et ma mère était soignée par ce médecin. Nous avons pu la guérir ses intestins. Je laissais simplement un petit peu de l'or.
Début 1946, Stella et sa mère reçoivent l'autorisation de rentrer en Pologne, où elles retrouvent le père de Stella, également libéré. Mais Stella ne reverra jamais aucun autre membre de sa famille polonaise. Tous ont été exterminés par les nazis.
No, wie pani, to zależy co, bo ona się tak nie mówiła specjalnie źle, bo byliśmy w dużym sojuszu ze Związkiem Radzieckim, a poza tym myśmy przeżyli.
On parlait pas beaucoup de nous.
Na pewno lepiej, aniżeli nie.
Mais je peux vous dire que nous avons quand même vécu.
Podczas okupacji niemieckiej. Mój mąż był Oświęcimiakiem.
Par rapport aux gens
od początku
qui ont vécu la guerre, des camps de concentration.
I tam, i wie pani,
il y avait même des gens qui souffraient même plus que nous.
Bo tak to by nie wyszło. I także ja znam to wszystko od tamtej także strony. I trzeba powiedzieć, że my oprócz tego, że,
on peut dire
że cofnęliśmy się,
que nous étions arriérés un peu près de 50 ans. Nous avons eu faim et c'était vraiment une époque incroyable.
No, oni też głodowali ten naród. Naród jest bardzo dobry, tylko
je savais que la Russie était un pays riche, mais je peux vous dire que c'est un pays magnifique. Il y a beaucoup d'art, d'histoire. Et même malgré toute la guerre, malgré
także ja może tą wojnę, mimo tych strasznych warunków bytowych, mimo mego braku dzieciństwa, mimo tego wszystkiego upokarzania,
malgré
tego, to ja ją
przeżyłam
na pewno lepiej niż
les moments atroces,
wśród tych
że n'ai pas de rancune par rapport au peuple russe.
Bo ja byłam. Przecież te 3 miesiące byłam.
En comparaison,
także ja już wiem.
Des souffrances qui ont vécu des gens par des Allemands.
Question.
Est-ce que vous êtes catholique?
Nie.
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 Réponse.
Nous sommes juifs.
Non, nous sommes juifs.
C'est au cœur même du goulag, marque de fabrique du système répressif stalinien, que Stella et Irina ont grandi. Une enfance intense, dans les joies et dans les peines, avec laquelle elles ont dû se construire.
On était jeunes.
Даже фотографии у меня есть, когда мы в костюмах таких.
Donc, je me souviens, sur cette photo, on est habillé en habit russe. Et donc, on chante. Et à la maison, est-ce que vos parents se réunissaient avec des voisins, des amis pour chanter des chansons ukrainiennes? C'était interdit. Même quand on priait qu'on faisait la messe, on le faisait tout doucement pour que personne ne nous entende.
Вот я знаю, що мама мне говорили, когда я ещё маленькая была на Сибири.
Quand j'étais petite, en Sibérie, ma mère nous disait
«
L'homme ne peut pas changer de foi. »
Irina
Estella, au pays des ours blancs, est le troisième épisode de notre série documentaire « Nos années Goulag » avec les témoignages de Irina Tarnavska et Stella Kovac. Conseiller historique Anne-Marie Lezoncy. Une série coproduite par RFI et France Culture à partir des archives sonores du Goulag. Les archives sonores du Goulag sont le fruit d'une enquête sans précédent menée par une équipe de 13 chercheurs de 8 nationalités différentes et coordonnée par le CERSEC, le Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centres européens. En collaboration avec RFI, notre équipe a recueilli plus de 160 témoignages en Europe centrale et orientale, également au Kazakhstan et en Sibérie. Attachée d'émission Christine Bernard et Alison Sinard, coordination Irène Omelianenko. Un documentaire de Valérie Nivelon, mixé par Olivier Dupré, réalisé par Christine Robert et adapté par Cécile Pompeani pour RFI. Nos années Goulag sont à retrouver sur les pages RFI et Facebook de La Marche du Monde. Téléchargez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.